C'est ce que nous croyons de tout notre cœur. Parce que Dieu l'a dit. C'est pourquoi. C'est vrai. Et c'est pourquoi il en sera aussi ainsi. Quand le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. Alors, c'est oui et amen. Alors, c'est vrai. Et nous nous en réjouissons. Seulement, Paul a écrit aux Hébreux que aussi les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient pas non plus être achevés sans nous. Et donc, nous aussi, nous devons attendre que tous ceux que Dieu a choisis soient appelés à sortir de tous les âges et que tout atteigne son point culminant, son achèvement et sa perfection. Ensemble, alors avec Abraham, Isaac et Jacob, et avec tous les hommes de Dieu, avec tous les enfants de Dieu, et avec tout le ciel, tout entier, nous louerons alors le Seigneur et les acterons. Comme nous pouvons être reconnaissants pour la révélation de sa parole et de sa volonté, je crois que sa parole nous est de plus en plus précieuse. C'est mon cas. Et vous savez que nous nous sommes déjà plongés dans la parole depuis des années. Et nous sommes approfondis. Nous avons aussi constaté que nous avons souvent traduit des prédications et soudain, beaucoup de choses sont devenues nouvelles pour nous. C'est devenu grand pour nous. Nous avons vu nouvellement, n'est-ce pas, les contextes du conseil, du salut de notre Dieu. Pour cela, nous sommes aussi du fond du cœur reconnaissants. Alors que le cœur avait été choisi, voici le jour. Alors j'ai pensé à la parole de Néhémie 8, je veux juste la lire et puis nous reviendrons tout de suite pour quelques minutes à l'épître aux Éphésiens, peut-être encore à l'épître de Jean. Dans Néhémie, le chapitre 8, il est écrit, la deuxième partie du verset 9, le sacrificateur, donc Néhémie qui était gouverneur et Esdras, le sacrificateur, le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dire à tout le peuple, ce jour est saint pour l'Éternel votre Dieu. Néhémie 8, verset 9, ne soyez pas tristes et ne pleurez pas, car tout le peuple s'était mis à pleurer en entendant les paroles de la loi. Puis il poursuivit, allez, mangez des aliments gras et buvez des boissons sucrées et donnez aussi des portions à ceux pour qui rien n'a été préparé. Car le jour est saint pour notre Seigneur. Ne vous découragez donc pas, car la joie dans l'Éternel est votre force. Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, soyez tranquilles, car ce jour est saint. Et ne vous découragez pas. Vous pouvez continuer à lire. Quelle parole merveilleuse. Un jour que le Seigneur a fait, celui qui lit l'ensemble, qui connaît le contexte, sait de quoi il s'agissait. La fête des tabernacles avait été célébrée à nouveau. Le peuple était de retour. C'était un jour particulier, un jour que Dieu avait fait, un jour où les promesses s'étaient réalisées. Car Dieu avait dit, après 70 ans, après 70 ans, je vous ramènerai. Le temps était écoulé. Ils sont revenus, ont reconstruit sur les anciennes, sur les anciennes fondations, ont enseigné le peuple et ont loué et célébré le Seigneur. Le temps, notre captivité à Babylone est terminée. Nous sommes rentrés chez nous. Nous avons déblayé l'ancien terrain. Nous avons retrouvé les anciens fondements et les anciennes fondations. Dieu soit loué pour cela. Et il est peut-être écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 10, que personne ne peut poser d'autres fondements, ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et c'est Christ. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu que toutes les choses qui étaient enfouies, qui étaient recouvertes par des interprétations comme ça, ont été enlevées. Et nous pouvons contempler la gloire de Dieu sur le visage de Christ. Acceptez donc de la bouche du Seigneur que nous soyons nous aussi consolés, relevés et encouragés par cette parole. Tenez-vous tranquille, ne pleurez plus. Ce jour est saint pour le Seigneur. Et quand je pense à combien de réunions charismatiques ce cœur est justement chanté avec force. Ceci est le jour, ceci est le jour. Le frère Schmitt se souvient bien quand nous sommes allés tous les deux à Düsseldorf et que nous y avons même entendu le président du plein évangile des hommes d'affaires des églises danoise, Jenny Shikarian, un vieil ami de frère Branham. Et on y chantait aussi ce cœur. Et quelqu'un qui avait le courage a donné une prophétie comme dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Il a donné ce verset comme prophétie. Écoutez bien Dieu et vous serez plus heureux. Écoutez ces prophètes et vous aurez la victoire. C'est la prophétie qui a été apportée. Belle assemblée, charismatique. Et vous pouvez imaginer ce que nous avons ressenti tous les deux. On peut dire des choses sans que personne ne comprenne de quoi il s'agit, même comme prophétie. Nous pouvons être considérés comme un petit troupeau effrayé qui n'a trouvé nulle part un lieu de repos. Car nous ne trouvons le repos que là où Dieu peut venir avec nous dans le repos, dans son repos. Et celui-ci n'existe que là où il peut révéler sa parole. Mais lors de telles manifestations, des pensées nous traversent le cœur et l'esprit. Quelqu'un parle vraiment comme s'il était armé d'un pistolet et annonce au peuple, « Écoutez-moi, ainsi parle l'Éternel, écoutez-moi, et vous aurez du succès, et mon prophète, et vous serez vainqueur. » Et personne n'écoute Dieu. Et personne n'écoute le prophète que Dieu a envoyé. Et le président dit, nous venons certes de différentes églises et croyances, mais la foi en la Trinité divine nous unit. Alors vous pouvez imaginer ce qui s'est passé en nous, de nouveau. Ce qui s'est passé en nous, n'est-ce pas? Cher ami, je ne dis pas cela pour critiquer. Dieu connaît mon cœur. Je le dis seulement pour souligner la grâce qui nous est faite. À nous qui sommes rejetés par l'homme, d'être ici, de pouvoir être ici et d'entendre les vraies paroles de Dieu par la révélation de l'Esprit, d'y croire et de les voir se manifester dans notre cœur et de les écouter et de les voir se manifester dans notre cœur. Nous l'avons déjà dit ce matin. On peut ou chacun peut répéter n'importe quel verset de la Bible à volonté, à volonté. Le pape peut dire que c'est la volonté de Dieu que nous soyons tous un. Ensuite, il donne la direction, n'est-ce pas, et l'orientation, et alors c'est l'unité. Ils appellent ça l'unité. Mais quelle unité? certainement pas l'unité de Dieu. Je vais sans doute devoir vous montrer une autre parole aujourd'hui pour vous dire de quelle unité il s'agit là et ce qui s'ensuit à cette unité. Mais ici, nous sommes reconnaissants pour cette parole. Il dit le verset 11. « Les Lévites calmèrent tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est saint. » C'était un jour qui était saint pour le Seigneur Dieu. Voici ce qui est écrit ici au verset 9. Ce jour est saint pour l'Éternel, votre Dieu. La deuxième partie du verset 9. Un jour où Dieu a fait quelque chose, où il a ramené son peuple et a tout ordonné parmi son peuple. Puis il est dit, au verset 9, ne soyez pas tristes et ne pleurez pas, car tout le peuple s'était mis à pleurer en entendant les paroles de la loi. Je voudrais nous crier la même chose aujourd'hui. C'est le jour que le Seigneur a fait. Ce jour est saint pour l'Éternel, notre Dieu. C'est le temps dont les prophètes et les apôtres, que les prophètes et les apôtres désiraient ardemment voir, pour être témoin, pour entendre ce que nous entendons et ce que nous voyons et ce que nous vivons. Et lorsque frère Branham a fait la déclaration que si Dieu lui avait demandé quand il avait choisi de vivre sur terre, quel temps il aurait choisi? Alors il a dit qu'il aurait choisi ce temps dans lequel il vit. Et maintenant, lui aussi a été ramené à la maison sans voir la chose finale. Nous sommes encore là aujourd'hui. Nous ne savons pas jusqu'où nous pourrons encore vivre tout cela. Mais une chose est sûre. Si je ne devais plus vivre l'achèvement, une chose est sûre, c'est que tous le vivront, même ceux qui nous ont déjà précédés. Car il est écrit que nous, les vivants qui serons restés, n'aurons rien de plus. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, car ils ressusciteront les premiers. Et ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons changés. Dieu mènera donc les choses à leur terme en toute justice. Il n'y aura pas d'achèvement précoce ni d'achèvement tardif. Tous ceux qui nous ont précédés doivent attendre jusqu'à ce que le moment soit venu. Et alors, nous le vivrons ensemble. Notre Dieu est si fidèle qu'il ne serait pas si beau que certains se réjouissent déjà et que nous devions encore vivre ici des fléaux et surmonter certaines épreuves. Ils attendent au paradis jusqu'à ce que nous les rejoignions et que l'achèvement puisse avoir lieu. Accueillez cette parole, recevez cette parole dans votre cœur. Voici le jour. Le jour que Dieu a fait pour que nous entendions la parole de ce jour, les promesses que Dieu a faites pour ce temps. Et c'est à cela que tous les vrais enfants de Dieu, de tous les temps, ont ressenti leur lien avec Dieu et ont su qu'ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils savaient non seulement ce que Dieu avait fait avant les temps, mais aussi ce qu'il avait fait à leur époque. Frère Rousse a encore lu la parole glorieuse d'Éphésiens 3. Je l'ai écouté à côté et j'ai dit à moi-même ou au Seigneur, est-il encore nécessaire de tenir une prédication? Quand on lit une telle parole de Dieu, n'est-ce pas déjà une prédication qui pourrait durer 24 heures? Tout y est pourtant contenu. Que manque-t-il donc ici, dans cette prédication? Tout y est. Un résumé. Paul était un homme de Dieu à qui il avait été donné de résumer les choses dans la brièveté, de résumer. Et aujourd'hui, si nous voulions nous pencher sur chaque verset et sur ce qu'il exprime, nous pourrions effectivement parler de chaque verset pendant au moins une heure, chercher et trouver les passages bibliques qui s'y rapportent. Comme c'est merveilleux, lorsque au verset 2 d'Éphésiens 3, le verset 2 dit déjà, vous avez certainement entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu. Oui, mais qui administre la parole de Dieu, je me demande. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Qui l'administre? Vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu. Qui m'a été accordée pour vous? Quelle grâce! Paul savait que tout est grâce et encore grâce. Chaque révélation, tout ce qui lui était accordé, tout était grâce. Et rien n'était mérite. Et il savait que dans cette grâce de Dieu, dont il a fait l'expérience, il y avait des choses à gérer, à administrer pour tous ceux qui ont été graciés par Dieu, pour tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Et c'est là que réside le mystère que Dieu a déjà exprimé, ou que Moïse a exprimé à Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Paul avait trouvé grâce devant Dieu. Le Tout-Puissant lui a fait connaître ses voies et ses actions. Si nous avons trouvé grâce devant Dieu, Dieu nous fait connaître sa voie avec son Église aujourd'hui. Trouver grâce devant Dieu signifie marcher avec Dieu. Écouter sa parole, avoir part à ce qu'il fait maintenant, pas seulement ce qu'il a fait il y a 100 ou 1000 ans. Au verset 3, il est écrit, concernant le mystère qui m'a été fait connaître par révélation. Amen. Alléluia. Pas révélation, pas au pied de Gamaliel, mais au pied de Jésus-Christ. Concernant le mystère qui m'a été fait connaître par révélation, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Ça se réfère aussi particulièrement, sûrement aussi au premier et au deuxième chapitre de l'Épître. Ici, c'est le troisième chapitre. Il dit sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Comme je l'ai déjà écrit brièvement tout à l'heure à ce sujet. Au verset 4. Par là, vous, si vous le lisez, vous pouvez reconnaître mon intime familiarité avec le mystère du Christ. C'était pas dans sa tête, c'était sa vie. Il parle d'intimité avec le mystère du Christ. C'est pourquoi il pouvait le dire en lui, je vis, je me meus. C'était sa vie. Pas seulement un enseignement, c'était sa vie. C'est à cela que vous pouvez vous référer si vous le lisez. Vous pouvez voir ma familiarité, mon intime familiarité avec le mystère du Christ, mon intimité. Je crois que nous pouvons dire la même chose des prédications de Frère Branham. Sans exagérer. Nous pouvons dire à partir de ce que Dieu lui a donné. De ce que Dieu lui a donné, nous pouvons reconnaître le lien intime qu'il avait avec Dieu. D'où, de ce lien-là, duquel la révélation lui est venue. Et savoir que Dieu lui a parlé et qu'il a parlé par lui ensuite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce qui a été dit. Au verset 5, il est écrit, « Ce qui dans les siècles passés n'a pas été fait connaître aux enfants des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. » Nous avons ici un autre verset qui devrait être lu à certains de nouveau. Combien sont-ils? Ceux qui tout simplement, quand on leur dit que Dieu ne change pas ses voix et qu'il a parlé de nos jours par un prophète, bonté divine, alors ils prennent la fuite et pensent que nous avons un Russell, quelqu'un qui a donné naissance aux témoins de Jéhovah, ou une Ellen White qui a donné naissance aux Adventistes, ou un Joseph Smith qui a donné naissance aux Mormons, ou un Mahomet. Nous n'avons pas besoin de tels prophètes. C'était de faux prophètes. Mais Dieu a toujours eu des messagers, des hommes, des prophètes qu'il a appelés lui-même. Mais je vais vous dire ce qu'ils font. Il se réfère très vite à Hébreux 1, où il est dit que Dieu a parlé au Père par les prophètes de diverses manières et sous diverses formes. Et ils disent alors, oui, mais c'est fini maintenant. À la fin des jours, il nous a parlé en son Fils. Et alors, ils mettent les points sur les i. Mais où est Dieu? Où est-ce que là, Dieu fait-il un point? Où Dieu s'arrête-t-il? Là où les hommes s'arrêtent, c'est là que Dieu ne fait que commencer. Là où l'Ancien Testament s'est arrêté, le nouveau a commencé, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, cela me transperce jusqu'au plus fond de moi-même. Ensuite, il trouve encore Luc 16, également à leur propre détriment. La loi et les prophètes, c'était jusqu'à Jean. Et c'est à partir de là que le royaume de Dieu a été annoncé. Et maintenant, ils disent, vous l'avez ici. Nous l'avons aussi ici. Oui, amen. Oh oui, nous l'avons ici. Avec une grande joie, nous l'avons ici. Oui. Dieu a parlé à travers tous les prophètes, jusqu'à Malachie. Il a parlé. Et ensuite, la chose a commencé à s'accomplir. Ce qui était écrit dans Malachie. Avec Jean, puis avec notre Seigneur lui-même. Mais le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu 23, « Je vous enverrai des prophètes et des scribes, dont vous tuerez et persécuterez certains. » Le même Dieu dit, « J'ai établi dans l'Église des prophètes, des apôtres, des bergers, des docteurs et des évangélistes. » Vous pouvez lire Acte 13, dans l'Église d'Antioche, on trouvait là des apôtres et des prophètes, etc. Partout, toute la Sainte Écriture en est remplie. Comment devons-nous lire la parole de Dieu? Par révélation. Pas avec des opinions toutes faites, ouvertement, devant la face de Dieu. Ce n'est qu'alors que nous comprendrons quelles sont les voies de Dieu avec son peuple. Et quand il dit encore, voici, que je vous envoie le prophète Élie, avant que ne vienne le jour grand et terrible de l'Éternel. Élie était un homme qui a provoqué une décision parmi le peuple de Dieu. Et ce, au moment du sacrifice du soir. Là aussi, il faut lire la Bible très exactement, très attentivement. Il a dit, Dieu a donné du temps à tout le monde, aux 400 prêtres d'Asherah, aux 450 prêtres de Baal, et ils ont tous eu toute la journée à la disposition. Mais à l'heure du soir, c'était l'heure de Dieu. L'heure du prophète était l'heure de Dieu. Et il reconstruisait l'autel du Seigneur. Et c'est là que tout a commencé. Si le Seigneur est Dieu, serve-le. Si Baal est Dieu, alors courez après lui, servez-le. L'heure du choix, de la décision, avait sonné. Si Paul parle ici du mystère de Dieu, alors nous pouvons le faire aujourd'hui avec le même droit. Non seulement d'un mystère, le mystère de Dieu en Christ, mais aussi de tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu qui sont cachés en lui. Tout ce que, dans la révélation de Jésus-Christ, tout ce que Dieu a à nous révéler se trouve dans la révélation de Jésus-Christ. En lui, tout nous a été donné. Nous n'irons pas plus loin ici, juste la pensée. Il est écrit ici, dans la dernière partie du verset 9, voire peut-être tout le verset 9, afin de donner tout l'éclaircissement, à savoir quel est l'objectif lié à la réalisation du mystère qui a été caché depuis le commencement des temps en Dieu, le Créateur de toutes choses. En Dieu, le Créateur de toutes choses, ce mystère était caché. Mais soudain, lorsque Dieu s'est révélé, ce mystère caché de Dieu a lui aussi commencé à se déployer, à se manifester. Et c'est tout de même la somme de l'ensemble que ce que Dieu avait en lui planifié avant même la fondation du monde prit alors forme. Quand il s'est révélé, cela a commencé à se réaliser. Et c'est ainsi que nous voyons le conseil du salut de notre Dieu prendre forme dans la chair, rien pour la tête, mais tout pour le cœur. Car Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Qu'a dit frère Branham dans une prédication? Satan prend la tête et commence par des arguments de toutes sortes, comme avec Ève, et nous entraîne dans une conversation. Et cela, je vous le dis, lorsque Satan vient nous voir, ce n'est pas non plus avec une citation du magazine Miroir ou de l'Étoile, mais toujours avec la parole de Dieu. Il est aussi venu au Seigneur toujours avec la parole de Dieu, mais sorti de son contexte, il voulait le renverser, le faire tomber. Il a utilisé la parole pour le tenter. Satan fait la même chose aujourd'hui encore. Et c'est toujours à cela que nous reconnaissons si c'est l'Esprit de Dieu et une véritable inspiration ou si c'est l'ennemi qui veut utiliser la parole pour détruire et faire tomber. Puis le verset 11 d'Éphésiens. Oh, comme c'est merveilleux! Ce dessein qu'il avait formé de toute éternité, il a mené à bonne fin en Jésus-Christ notre Seigneur. Il a exécuté, il a mené à bonne fin. Aussi, pour Paul, il voyait ici quelque chose déjà d'exécuté, mené à bonne fin, qu'il a mené à bonne fin. Plus de doute. Bon, peut-être que cela va lui réussir ou non. Non, qu'il a mené à bonne fin. Et là, une chose accomplie, et là je ne peux m'empêcher de penser à Romains 8. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il avait justifiés, il les a aussi sanctifiés. Il les a conduits au but. Il les a transformés à l'image de son fils. Et puis Paul conclut en disant, dans Romains 8, qui veut accuser les élus de Dieu? Je sais celui qui veut les accuser. Il est là pour cela. C'est-à-dire l'accusateur des frères. Je l'ai déjà dit ici, si celui-ci est mis à la porte, je pousserai des cris de joie. Et je crois tous ceux qui ont vaincu à cause de la parole de Dieu et à cause du sang de l'agneau. Si celui-ci est mis à la porte, je vais m'abstenir du nom que je veux lui donner. Si celui-ci est mis à la porte, alors je pousserai des cris de joie. Alors je pousserai des cris de joie. Parfois, on se demande pourquoi Dieu permet encore cela. Mais Dieu est un Dieu bon et il permet toutes les choses ainsi. Et finalement, tout doit servir à sa glorification, à sa gloire. Ce dessein qu'il avait formé de toute éternité. Il l'a mené à bonne fin. Il l'a exécuté, il l'a accompli à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et ce n'est pas tout. En qui nous avons par la foi, le verset 12, en qui nous avons une joyeuse assurance et un libre accès auprès de Dieu avec une joyeuse confiance par la foi en lui. Libre accès. Le voile s'est déchiré. Le chemin est inauguré, est libre. Le rideau est déchiré. Le chemin est libre. Ne laisse plus rien se mettre en travers de ton chemin. Satan va essayer avec toi, avec moi, avec nous tous. Il peut aussi essayer de faire en sorte que nous serions l'un pour l'autre un obstacle. De se placer entre nous pour nous mettre les uns contre les autres. Ce n'est pas permis. Ne le permets pas. Regardez par-dessus tout et fixez votre regard sur le Seigneur qui a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les enfants de Dieu dispersés. » T'a-t-il attiré de la même manière qu'il a été élevé? Tu seras alors toi aussi un peu élevé au-dessus des choses de ce monde et alors tu ne trébucheras plus sur elles, mais tu pourras trouver et suivre le chemin du Seigneur au-delà d'elle, au-dessus d'elle, de toutes ces choses. Paul dit encore, c'est pourquoi je vous demande, le verset 13, c'est pourquoi je vous demande aussi de ne pas vous décourager, verset 13, dans mes souffrances pour vous, car c'est une gloire pour vous. De ne pas se décourager parfois. Il y a parfois des heures dans notre vie où nous nous sentons tout seuls. Et pas seulement cela. Où nous nous sentons abandonnés, incompris, et où nous ne savons vraiment plus où donner de la tête. Celui qui n'a pas encore vécu cela le vivra encore. Et depuis toutes ces années que je prêche, j'ai déjà entendu des gens dire, Frère Franck, tu as déjà dit il y a des années que celui qui n'a pas encore vécu cela le vivra encore. Et puis les jeunes étaient là, tout glorieux et dans la joie. Et ils ont pensé, oui, non, pas chez moi, pas avec moi. Ils sont venus et ont dit, tu as dit ceci et cela à l'époque. Je ne voulais pas y croire. Mais cela m'est arrivé. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Nous sommes tous encore sur terre et chacun a des épreuves à surmonter. Mais si nous savons qu'il est devenu notre souverain sacrificateur et qu'il est entré dans le sanctuaire divin, céleste, avec son propre sang saint, et que le sang reste sur le trône de la grâce jusqu'à ce que l'achèvement de l'Église épouse soit réalisé. Alors nous ne pourrons plus rien faire. Le sang aura alors produit son effet et le trône de la grâce deviendra alors le trône du jugement. Le temps de la grâce sera alors terminé et alors Dieu règle les comptes. Ici, nous avons encore une parole. Nous avons parlé de la vie puis d'une brève comparaison avec la mort. Ici, dans l'épître de Jean, vous savez que Jean était le disciple préféré de Jésus. Et donc, il a au moins dit si cela. Est-ce écrit dans la Bible qu'il était... Est-ce que c'est écrit là, nous allons aussi lire très exactement, qu'il était le disciple préféré de Jésus? Oui, bien, n'est-ce pas? Oui. Est-il écrit qu'il était sur sa poitrine, n'est-ce pas? Là aussi, nous devons tous lire attentivement. Celui qu'il aimait particulièrement, n'est-ce pas? D'une certaine manière, Jean était assez proche de lui. Eh bien, c'est bien, je m'en réjouis. Mais nous pouvons aussi tous être proches du Seigneur. Et il était l'homme, celui qui était en quelque sorte particulièrement touché par l'amour. Paul a écrit sur les dons, sur les ministères, sur beaucoup de choses. La préoccupation principale de Jean était l'amour divin. Et je crois qu'il était tellement imprégné de cet amour divin qu'il a vécu, qu'il l'a écrit, qu'il l'a prêché, qu'il faisait partie intégrante de ce qu'il a dit et écrit. Il y avait ici une parole que je voulais lire, à savoir 1 Jean chapitre 5, le verset 13. Je vous ai écrit ces choses, 1 Jean chapitre 5 verset 13, à vous qui croyez au Fils, qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il s'agit de savoir, afin que vous sachiez. Beaucoup croient, mais ça ne suffit pas. Son esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pour ça que je l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Pour cela, il faut revenir au chapitre 1 de 1 Jean et aller, oui, au chapitre 1, aller dans 1 Jean, chapitre 1, oui, il faut lire à partir du verset 1. 1 Jean, chapitre 1, verset 1, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Qu'est-ce que c'était? Celle qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté la vie. Dieu s'est révélé en Christ, s'est manifesté en lui pour, donc à cause de nous, la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifesté par amour pour nous. Et ensuite, il est dit de notre Seigneur, en lui était la vie. Il est écrit ici qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Jean écrit exactement. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean écrit encore ici, au chapitre 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Aussi, afin que vous soyez aussi en communion avec nous. Or, la communion avec nous est aussi la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce un dialogue? Est-ce que cela est un dialogue entre deux personnes? Non. Ici, il nous est seulement montré que ce qui était en Dieu a été manifesté en Christ. Et nous le reconnaissons et nous disons cet après-midi, comme nous l'avons dit ce matin, que ce n'est que là où Dieu a commencé à rencontrer l'humanité que nous pouvons, en tant qu'être humain, rencontrer Dieu. Et il n'y a qu'un seul lieu de rencontre de Dieu avec l'humanité. Et il est en Jésus-Christ notre Seigneur. Tous ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui ont la foi, reçoivent la vie éternelle. Je n'ai pu m'empêcher de penser à la comparaison avec l'Antichrist. Et je vous lis là quelque chose du quatrième sceau. C'est aussi la parole de Dieu, la précieuse parole de Dieu. L'Antichrist a si bien commencé. Mais ensuite, dans le quatrième sceau, il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 6, du verset 7. Apocalypse, chapitre 6, du verset 7. Puis lorsque l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant crier à haute voix, « Viens !» Je regardais, et voici un cheval pâle, de la couleur d'un cadavre. Celui qui le montait s'appelait la mort. Et le royaume des morts, ou bien alors l'enfer, selon les traductions, formait sa suite. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre pour faire périr par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre, etc. Ici, il s'agit pour moi seulement de cette pensée. Ce qui m'importe ici, c'est la pensée que Jésus-Christ est venu nous donner la vie en plénitude, une vie divine, éternel. Il est suivi par tous ceux qui sont destinés au ciel, qui ont été choisis avant la fondation du monde pour être changés à l'image de Jésus-Christ, transformés à l'image de Jésus-Christ. L'Antichrist, il a un nom étrange. Le contraire de ce qu'est le Christ. Le Christ est la vie. Et il s'appelle ici, l'Antichrist s'appelle ici la mort. La mort. Et c'est l'enfer qui forme son cortège. Tous ceux qui descendent à l'enfer suivent l'Antichrist. Ils meurent de la deuxième mort, la mort spirituelle. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, je vous le lis aussi, afin que vous sachiez que c'est écrit, Actes chapitre 13. Rendons grâce à Dieu pour sa parole éternelle. Rendons grâce à Dieu pour les actes. Rendons grâce à Dieu pour toutes les épîtres. Rendons grâce à Dieu pour chaque parole sainte. Pour chaque parole sainte. Gloire à son nom. Actes des apôtres 13, le verset 46. Sachez seulement que nous ne parlons pas de mémoire, mais intérieurement, nous lisons. Nous ne parlons pas par cœur, nous lisons. Il est écrit ici, verset 46. Alors Paul et Barnabas leur déclarèrent avec audace. Il fallait donc à vous, les Juifs, que la parole de Dieu soit d'abord annoncé, mais parce que vous la rejetez et que vous ne vous estimez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens. Car c'est ce que le Seigneur nous a ordonné. J'ai fait de toi la lumière des nations, afin que tu sois le salut des extrémités de la terre. Quand les païens entendirent cela, ils se réjouissent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous, dans la mesure où ils étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Amen. Amen. Ça, c'est le destin de Dieu, du salut. Certains pourraient s'étonner. Oui, pourquoi? On dit que si Dieu sait toutes choses à l'avance, pourquoi devons-nous sortir pour prêcher? Ne pensez-vous pas que je préférerais, moi aussi, me reposer ici? Nous devons partir. C'est le mandat divin. Mais ici, il s'agit de cette pensée. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru, qu'ils soient païens ou juifs, de tous les peuples, les langues et les nations, de toutes les couleurs, quels qu'ils soient, Dieu a vraiment, c'est écrit, déjà du temps d'Abraham, en toi seront bénis toutes les descendants de la terre. Pas seulement une seule, mais toutes les races et toutes signifient tout. Et ainsi, de toutes les couleurs, langues, nations, peuples, quel qu'il soit, le Seigneur aura un bouquet glorieux. Il y en aura beaucoup. Et c'est si merveilleusement dit ici. Quand les païens entendirent cela, avez-vous vu comment cela est formulé ici? Verset 46, la deuxième partie. Mais parce que vous la rejetez et que vous ne vous estimez pas vous-même digne de la vie éternelle. De quoi il s'agissait là? Il s'agissait de la parole de Dieu. Parce que vous la rejetez. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas l'écouter. Ils avaient peut-être raison qu'ils ne pouvaient pas recevoir la vie éternelle en rejetant la parole de Dieu. C'est peut-être raison qu'il y a eu le passage des Juifs aux païens. Tous ceux qui étaient ordonnés à la vie éternelle sont devenus croyants. Le Seigneur connaît les siens. Et les siens le connaissent. Il se révèle à eux. Et eux aussi le reconnaissent pour ce qu'il est. Le Seigneur est venu racheter les siens. Que dit Jean 17? Tous ceux que tu m'as donnés viendront à moi. Et personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire d'abord. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes au Seigneur. Il y avait ici un, un train, nous avons été attirés, si puissant. Nous avons été attirés comme un aimant. Nous n'avons pas pu résister. Nous avons été tirés. Que dit le cantique des cantiques? Tire-moi et je me précipiterai après toi. Quelle merveilleuse parole de Dieu. Tout est parti de lui, est sorti de lui. Tout est ordonné par lui. Et nous, nous laissons insérer dans cet ordre divin. Dites-moi, ne devrions-nous pas être reconnaissants à Dieu d'avoir arrangé les choses de telle sorte que nous ayons en ces jours une clarté totale sur l'ensemble du conseil de Dieu, sur l'ensemble du dessein de Dieu, que pour autant que nous puissions en avoir une vue d'ensemble pour le moment, il n'y a pas de problème qui soit encore une énigme quelque part et qui doivent encore être résolus. Peut-être dans notre propre vie, mais pas en ce qui concerne Dieu, la parole de Dieu et le plan de Dieu. Sa parole, oui, les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde, Dieu les a révélés. Je pense que Frère Branham aurait pu utiliser la même formulation que Paul. C'est à moi, le plus petit, qu'a été révélé le mystère de Dieu caché à l'humanité depuis les temps éternels. Et en nous laissant accorder par Dieu dans cette direction. Pas dans la direction de Branham, je tiens à le souligner très clairement. Mais dans la direction divine, telle que Dieu l'a accordée. Ainsi, nous nous sommes laissés amener en accord avec la parole révélée. Et nous en sommes reconnaissants à Dieu pour cela. C'est aussi ainsi que nous avons compris la parole que Paul écrit aux Corinthiens. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui sommes-nous? Qui a même été crucifié pour vous? Et puis il arrive à ce point et il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Et Dieu a donné la croissance et la prospérité en plus. Nous disons la même chose aujourd'hui. Que dit le prophète Esaïe? Qui donne la semence au semeur? Qui nous a donné la semence de Dieu pour que nous puissions répandre la parole et la semer? Dieu l'a donnée. Et la semence divine l'a reçue. Et elle sort. Elle produit son espèce. Et tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle la reçoivent. Mais l'autre aussi, il fait sa récolte. Et tous ceux qui sont destinés à descendre avec lui forment son cortège. À descendre en enfer, forment son cortège. Et je vous dis, que son cortège est assez important, mais nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas changer les choses. Nous sommes heureux de pouvoir faire partie du petit troupeau dont il est écrit. Il a plu au Père de donner le royaume au petit troupeau. Mieux vaut être peu nombreux dans la gloire que nombreux en bas. Vous pouvez me croire. Et puis nous sommes déjà consolés. Nous ne nous faisons pas de soucis. Mais nous souhaitons de tout cœur que quelques-uns qui n'ont pas leur place soient encore arrachés à cet ennemi juré. Que Dieu le permette. Vous savez ce qu'il en est, la masse est parfois entraînée sans avoir à suivre. Nous avons vu pendant le Troisième Reich combien de personnes y ont participé et ont ensuite pensé, quel dommage, qu'avons-nous fait? Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Que Dieu donne encore à certains du temps, un peu de temps, un temps très court pour réfléchir à ce qu'ils font, où ils vont, quel est leur objectif. Et si le Seigneur nous fait grâce et veut nous utiliser à cette fin, alors nous sommes prêts à présenter au monde entier cette magnifique offre de grâce de notre Dieu. Je souhaite que cela se réalise. Que Dieu nous bénisse tous. C'est le jour, c'est l'heure, c'est le temps que le Seigneur a fait, qu'il a fait pour nous, pour toi et pour moi. Loué soit son saint nom. Amen. Amen. Une fois encore, nous voulons souligner ce que nous avons lu aujourd'hui, à savoir que ce qui était caché de toute éternité en Dieu le Créateur, mais qui a été conçu par lui comme un plan, arrive à son achèvement et à sa réalisation par Jésus-Christ avec l'Église. Et c'est par la grâce de Dieu que le Seigneur a tout révélé. Il a ouvert les sceaux, fait connaître les mystères. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour son esclave, serviteur et prophète qu'il a envoyé. Et il a dit, celui qui reçoit un prophète que j'envoie en mon nom, c'est moi qui le reçois. Me reçoit. Le Seigneur a déjà dit la même chose après tous les prophètes de l'Ancien Testament, alors que le ministère de Jean-Baptiste était déjà terminé depuis longtemps. Amen. 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 Matthieu dit, celui qui reçoit un prophète que j'envoie recevra la récompense d'un prophète. Quand est-ce qu'il a dit? Et cette récompense, nous la recevons tous parce que nous avons reçu le prophète de Dieu. C'est pourquoi nous avons reçu Dieu. Car Dieu a envoyé son prophète avec sa parole. Et nous avons par cela reçu le Seigneur. Qu'a dit le Seigneur Jésus? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous écoute, m'écoute. C'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que c'est jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur a dit, s'ils ont entendu ma parole, s'ils ont écouté ma parole, ils entendront votre parole. Amen. Gloire à Dieu. Ils entendront votre parole, vos paroles. Ils écouteront. Oh, merci à Dieu. Nous nous souvenons en tout temps de chaque parole de Dieu qui est écrite. Nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse agir librement, comme il le souhaite. Nous ne voulons pas l'étouffer, mais donner à Dieu la possibilité d'ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Nous sommes toujours prêts à le faire. Mais en général, c'est vraiment par la parole que la volonté de Dieu et les mystères de Dieu sont révélés comme ils ne peuvent pas l'être plus clairement. C'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a quand même un passage de l'Écriture qui dit que nous pouvons chanter Dieu avec des psaumes, avec des cantiques, que nous entrons dans une adoration, dans une louange. Cela peut être dans toutes les langues, en langues anciennes et nouvelles, comme Dieu le donne. Dans l'harmonie de l'esprit. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Amen. Frère Kupfer, amen. 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 Si vous aviez tout dit en même temps, cela aurait été plus beau. Mais même si nous ne le disons pas tous, je pense que nous sommes tous reconnaissants. Reconnaissants pour la fidélité de Dieu. Reconnaissants pour sa parole. Elle est devenue une parole ouverte, une parole révélée, une parole vivante. Que Dieu en soit remercié. Et à l'instant où cette parole nous frappe avec la même inspiration qu'elle a, nous atteint avec la même inspiration qu'elle a atteint les prophètes et les apôtres lorsqu'ils l'ont reçue, alors la dynamique entre dans la mécanique et alors je ne sais plus ce qui va encore arriver. Dieu Tout-Puissant, tu as entendu cette requête. Et je demande consciemment pour notre sœur, en premier lieu, qu'elle soit guérie dans son âme, en deuxième lieu, qu'elle soit guérie dans son esprit, et en troisième lieu, qu'elle soit guérie dans son corps. Et Dieu Tout-Puissant, qui connaît tous les cœurs, toutes les pensées sont manifestes devant toi. Tu sais comme je le pense. Accorde la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Je peux promettre à la sœur que si elle est guérie dans l'âme et l'esprit, elle n'aura plus de problème corporel. Le besoin est dans l'âme. et le problème dans l'esprit, le corps alors sera aussi en bonne santé. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie aussi aujourd'hui, de tout mon cœur, doter du milieu de nous tous les esprits religieux de ton peuple et de nous donner un seul esprit de cet esprit. Un seul esprit de cet esprit. Nous pouvons nous passer de tous les autres esprits. Les esprits, ils ne font que nous égarer. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous revendiquons pour la troupe rachetée par le sang que tout esprit se retire par la puissance de Dieu, par l'autorité de la parole, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prends possession de nous tous par ton esprit et tout ira bien. Seigneur, mon Dieu, je te prie de nous exaucer. Je te remercie de nous avoir exaucés. Et maintenant, je te demande encore une chose, que personne ne dise un mot sur la nature de cet esprit, pardon, de cette prière, ou sur ce qui y a été exprimé, mais qu'on y réfléchisse et qu'on s'examine soi-même devant la face de Dieu pour savoir si nous sommes vraiment conduits en toutes choses par l'Esprit de Dieu, comme nous le pensons parfois, ou si d'autres esprits, ou si ce sont d'autres esprits qui nous mènent par le bout du nez, et cela de la manière la plus pieuse et religieuse. Seigneur, comme nous l'avons demandé ensemble, que tous les pieux, tous les esprits pieux et religieux, tous les esprits de toutes sortes s'écartent, sortent de ton peuple jusqu'à ce que ton esprit, ô Dieu, règne au milieu de nous. Que ton esprit vienne sur ton peuple, la vraie onction sainte, pour rendre vivante la parole sainte en nous et faites ainsi et faire ainsi devenir et qu'elle devienne ainsi puissance de Dieu en nous. Seigneur, cela a été dit. Aide-moi et aide-nous tous à toujours discerner, à ne plus chercher l'erreur chez aucun autre homme, mais à s'examiner à soi-même et à croire. Et alors, tu feras tout bien. Dieu fidèle, mon cœur est amené à te remercier, de rendre grâce pour le grand privilège d'avoir entendu ta parole de ta bouche sainte dans cette génération. Fraîchement révélée du trône. Oh Dieu, qui sommes-nous et que sommes-nous? Nous sommes ce que tu as fait de nous, des fils et des filles de Dieu. Nous te remercions de ta présence. Nous te remercions pour ta douce présence. Ô Seigneur, nous prions néanmoins pour tous ceux qui ont des questions sans réponse, qui ont des décisions à prendre. Seigneur bien-aimé, nous aimerions avoir une vraie compassion, non pas avec la souffrance que nous ressentirons, mais la compassion divine, intime, que nous soyons tellement liés les uns avec les autres que la détresse du frère et de la sœur serait notre propre détresse. Ô Dieu, lie-nous ainsi de ce lien d'amour divin, à ce lien d'amour divin, si solide, si intime, car c'est le lien de la perfection. Dieu fidèle, celui qui veut parvenir à la perfection en Christ doit se laisser entourer, enlacer, lier solidement par ce lien de l'amour parfait, par ce lien d'amour divin, comme un seul cœur et une seule âme, un seul corps, un seul esprit, une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Ô mon Seigneur, rends encore une fois de vif, je te rends encore de vifs remerciements pour tout cela. Nous te prions aussi de ta bénédiction pour toute l'Europe, pour le monde entier, spécialement pour l'Europe de l'Est, ô Seigneur. Sauveur bien-aimé, tu as aimé tous ceux de tous les peuples de toutes les langues et de toutes les nations que tu as destinées à contempler ta gloire. Et nous te prions, ouvre-nous les portes. Fais-nous savoir, ô Seigneur, quand et où tu veux nous utiliser. Bénis en France tous ceux qui ont entendu ta parole. Bénis en Belgique tous ceux qui ont entendu ta parole. Bénis partout. Bénis en Pologne, en CCR, en CSSR, en Roumanie, en Russie, à Ronda, jusqu'en Bulgarie. Ô Dieu, bénis partout, Seigneur. Bien-aimé, nous prions aussi pour la Chine. Nous prions pour tous les peuples, pour toutes les langues. Oh, fais une percée. Fais une percée. Avec force de Dieu, avec puissance, nous sommes à ta disposition. Si tu ne trouves pas d'autres, nous voici, Seigneur. Prends-nous et utilise-nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.